Bonjour Emmanuel, bonjour à tous, bienvenue sur Les Nouveaux Chemins. Hey, you know what? Diffusé tous les jours, du lundi au vendredi de 10h à 11h, Les Nouveaux Chemins sont réalisés cette semaine par Midia Portis-Guérin avec Alexandre Dang à la technique et préparés par Geneviève Méric, Géraldine Mosna-Savoie, François Salmeron, Mathilde Unger et Adèle Van Rett. Adèle, qui tout à l'heure, à 10h50, vous parlera de gentillesse en compagnie d'Emmanuel Jafflin. Suite et suite pour nous ce jeudi d'une semaine sur Hannah Arendt dans Les Nouveaux Chemins de la Connaissance. Après Myriam Revaud-Allonne, Étienne Tassin et Catherine Chalier, avant Pierre Bourette, qui vous parlera demain des origines du totalitarisme, c'est aujourd'hui l'ami Michael Fossel qui est l'invité des chemins. Michael, avec qui nous parlerons de liberté comme il se doit.
Le champ où la liberté a toujours été connue, non comme un problème certes, mais comme un fait de la vie quotidienne, est le domaine politique. Et même aujourd'hui, que nous le sachions ou non, la question de la politique et le fait que l'homme possède le don de l'action doit toujours être présente à notre esprit quand nous parlons du problème de la liberté. Car l'action et la politique, parmi toutes les capacités et possibilités de la vie humaine, sont les seules choses dont nous ne pourrions même pas avoir l'idée sans présumer au moins que la liberté existe. Et nous ne pouvons toucher à une seule question politique sans mettre le doigt sur une question où la liberté humaine est en jeu. La liberté, en outre, n'est pas seulement l'un des nombreux problèmes et phénomènes du domaine politique proprement dit, comme la justice, le pouvoir ou l'égalité. La liberté, qui ne devient que rarement dans les périodes de crise ou de révolution le but direct de l'action politique, est réellement la condition qui fait que des hommes vivent ensemble dans une organisation politique. Sans elle, la vie politique comme telle serait dépourvue de sens. La raison d'être de la politique est la liberté, et son champ d'expérience est l'action.
Bonjour Michael Fossel.
Bonjour Raphaël Entoven.
Bonjour, et c'est toujours un bonheur de vous accueillir au Nouveau Chemin pour parler avec vous cette fois-ci de Hannah Arendt et de la question plus spécifiquement politique de la liberté. Car parler de liberté chez Hannah Arendt, c'est inévitablement, immanquablement, parler de politique.
Effectivement, Hannah Arendt, c'est d'ailleurs, on l'a entendu dans le texte qui vient d'être diffusé, affirme qu'il y a un domaine où la liberté a été connue, c'est-à-dire en fait où la liberté a toujours été expérimentée d'une manière ou d'une autre, et ce domaine, cet espace, pour reprendre le terme qu'elle emploie, c'est la politique. Alors là, évidemment, il y a une confusion qu'on pourrait être tenté de faire et qu'elle ne fait pas précisément, c'est de croire que la politique a pour but simplement la liberté. Et Hannah Arendt, il faut le rappeler constamment, n'est pas libérale en ce sens.
Or, elle précise que c'est à l'exception des périodes de crise ou de révolution où, cette fois-ci, la liberté est le but direct de l'action politique.
Dans ce cas-là, le désir de liberté, effectivement, motive les actions politiques. Mais en réalité, sa thèse est plus profonde que cela. Sa thèse, c'est que la liberté est une condition de possibilité de la politique et réciproquement. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a politique, il y a expérience de la liberté, et à chaque fois qu'il y a liberté, il y a expérience de la politique. Ce qui d'ailleurs suggère et implique que le totalitarisme n'est pas véritablement, pour elle, puisque c'est tout de même de là qu'elle part, une expérience politique. Le totalitarisme, c'est bien sûr la négation de la liberté, mais c'est du coup aussi la négation de la politique comme telle. Et donc, on peut aussi préciser par là, d'ailleurs, ce qu'elle entend par liberté. Parce que la liberté, elle l'apprend, je dirais, c'est une phénoménologue d'inspiration, elle l'apprend dans sa...
Et sa lecture, d'ailleurs, du totalitarisme est une lecture phénoménologique. Il faudra préciser un peu ce que ça signifie, c'est
effectivement,
très important.
C'est-à-dire qu'elle s'intéresse au phénomène de la liberté, à la manière dont la liberté apparaît dans l'expérience. Et donc, quand elle parle de liberté, elle ne pense pas spécialement ou uniquement aux droits de l'homme, aux libertés publiques telles qu'on les entend, ou privées telles qu'on les entend en général. Elle prend des phénomènes, je dirais, plus élémentaires. La liberté de mouvement, elle a en particulier beaucoup insisté dans son texte sur les origines du totalitarisme, sur le fait que le totalitarisme attentait même à la possibilité, je dirais, d'utiliser son corps et son esprit de manière déliée et virtuose. Et de ce point de vue-là, la liberté, c'est l'ensemble, je dirais, des capacités humaines, dialogue, discours, pensée, mouvement, qui permettent aux individus de constituer un monde. Il n'y a pas de liberté hors du monde, il n'y a de liberté que dans le monde. Et le monde, elle le définit comme l'espace qui se situe entre les individus, entre les citoyens.
Est-ce qu'à cet égard, la liberté n'est pas contradictoire ? Est-ce que le fait qu'il n'y ait de liberté que dans le monde n'oblige pas à penser la liberté sous la contrainte des contraintes elles-mêmes, qui vont avec le fait de vivre en société, comme on le dit très simplement, Michael Fossel?
Alors, évidemment, tout dépend de ce que l'on entend par monde. Parce que si l'on entend par monde le monde social, celui des sciences sociales, qui étudie les sciences sociales, alors
effectivement... Avec des causes et des effets, des mécanismes mis au jour, mécanismes dissimulés à l'échelle individuelle par le sentiment que l'on peut avoir d'agir librement.
Exactement, et même des structures sociales qui peuvent peser sur l'action des individus au point de les contraindre. Et il faut jamais oublier que Arendt entretient, elle avait même pensé écrire un livre sur Marx, un débat constant avec Marx. Et elle s'oppose à cette idée, disons, d'une réduction du monde aux formes sociales ou naturelles, d'ailleurs, de déterminisme. Pour elle, l'action, c'est précisément ce qui vient briser l'action libre, et elle est nécessairement libre, si elle est une action, je veux dire, c'est ce qui vient briser ce qu'elle appelle les processus. Elle s'oppose, disons, assez radicalement à l'idée que l'on puisse envisager le monde, mais aussi l'histoire, d'ailleurs, des hommes, sous la forme d'un processus, c'est-à-dire d'un mouvement, en quelque sorte, s'entretiendrait de lui-même, et qui laisserait de côté, nécessairement, la capacité des hommes, la capacité publique, à rompre le cours des événements pour introduire du nouveau.
Mais alors, qu'est-ce que la liberté dans ces conditions ?
Alors, qu'est-ce que la liberté ? C'est d'abord le titre d'un très beau texte qu'elle a consacré à cette question.
Dont on a lu un extrait, dans la crise de la culture.
Voilà. Et qu'est-ce que la liberté ?
Est-ce que la question est bien posée, d'ailleurs, si je vous dis qu'est-ce que la liberté ? Après tout, c'est elle qui la pose en ces termes. Mais est-ce que si on est fidèle à ce que vous dites d'elle, est-ce qu'on peut poser la question en ces termes ?
Je dirais qu'elle aurait peut-être été mieux inspirée de dire comment se manifeste la liberté ou comment apparaît la liberté. Car la question, en termes d'essence, évidemment, pose plus de problème qu'elle n'en résout.
Elle dit d'ailleurs ceci, je vous laisse parler après, mais soulever la question, c'est la première phrase de ce texte. Soulever la question, qu'est-ce que la liberté, semble une entreprise désespérée.
Semble une entreprise désespérée parce qu'évidemment, chaque fois que notre regard se porte sur le cours du monde ou sur les phénomènes intérieurs aussi de conscience, nous n'avons affaire qu'à des déterminismes. Et dans ce texte, qui est au fond la synthèse un petit peu, à bien des égards, du grand livre d'Anna Arendt, La condition de l'homme moderne, dans ce texte, elle montre que d'une certaine manière, les philosophes, c'est une thèse, disons, qui est bien dans la veine d'Arendt, c'est-à-dire extrêmement radicale et violente. Les philosophes ont depuis toujours, d'une certaine manière, méconnu le sens de la liberté. Pourquoi ? Eh bien parce que, en particulier d'ailleurs, à partir, disons, du christianisme, ils ont cherché la liberté, son expression ou son essence, liberté humaine, dans la volonté, dans l'intériorité humaine, c'est-à-dire au fond il n'y a de liberté que de la conscience. Si l'on pense par exemple au stoïcisme, évidemment, je suis libre des jugements que je porte, c'est-à-dire que ma liberté est tout entière intérieure.
C'est un schéma que même Michel Foucault reprend à son compte quand il parle de liberté intransitive.
En un sens, oui, et Michel Foucault, si vous voulez, c'est un penseur du souci de soi, alors que Hannah Arendt, c'est un penseur du souci du monde. Et donc, si l'on suit cette pente, je dirais, qui pour Arendt est funeste, on identifie la liberté à la conscience ou à un état intérieur, en quelque sorte. Et de ce point de vue-là, on peut affirmer tranquillement, comme les stoïciens, que l'on peut être esclave et libre. Puisqu'au fond, la liberté, c'est se retrancher du monde, d'une certaine manière. Et évidemment, se retrancher du monde, c'est se retrancher du politique. D'ailleurs, pour Arendt, il est tout à fait significatif que les grandes pensées de la liberté sont des pensées de la crise du politique. Ce sont des pensées hellénistiques. Les stoïciens, je viens d'en parler, c'est-à-dire à un moment où Athènes, déjà perd de sa puissance, et c'est fondamentalement, alors là c'est un point très important, le christianisme. C'est-à-dire au fond un ensemble de doctrines ou de croyances qui se fondent sur le rejet de l'empire, sur le rejet du politique au profit de la liberté intérieure. Or pour Arendt, il n'y a aucune chance de trouver la liberté à l'intérieur de soi, car la liberté est fondamentalement, ce que disait le texte d'ailleurs, lié à l'action, et toute action suppose la pluralité, la diversité des êtres, et non pas simplement une expérience intérieure.
En d'autres termes, Hannah Arendt, on voit depuis le début de cette semaine tout ce que Hannah Arendt permet de penser au-delà même de son époque. C'était particulièrement frappant ce matin où l'on parlait du 11 septembre, des fuites de Wikileaks, tout ça à la faveur de textes de Hannah Arendt. Et c'est vrai que c'était troublant. J'ai dit ce matin, d'ailleurs j'ai tort évidemment, puisque c'était avant-hier, mais c'était ce matin pour nous, puisque l'émission que nous enregistrons, c'est avant-hier pour l'auditeur, et c'était ce matin pour nous. L'émission que nos auditeurs entendent maintenant est une émission que nous avons enregistrée l'avant-veille de sa diffusion. Mais alors, on a vu donc tout ce qu'Hannah Arendt permettait de penser. Il y a aussi ce qu'Hannah Arendt ne permet pas de penser. Peut-être Hannah Arendt, de ce point de vue, ne permet-elle pas de penser l'expérience, justement, d'une liberté non réductible par les totalitarismes, cette liberté intérieure à laquelle on peut faire appel en s'inspirant, par exemple, de Bergson, mais également, effectivement, des stoïciens, sentiment d'une liberté, ou bien l'expérience, par exemple, que fait Épictète, pour rester chez les stoïciens, l'expérience selon laquelle on peut être libre et esclave tout à la fois, puisque son maître a beau lui casser la jambe, ça n'entame pas la liberté du stoïcien. Or, cette expérience-là est également un des ferments de dissolution du totalitarisme. C'est-à-dire, il y a là quelque chose que les totalitarismes ne parviennent pas à saisir. Comment Hannah Arendt, qui est philosophe du totalitarisme, peut-elle se contenter de ne pas penser justement une telle expérience de la liberté ?
Eh bien, précisément parce qu'elle distingue le totalitarisme des formes traditionnelles de la dictature. Et le principe de la distinction, c'est justement le suivant. Dans les dictatures traditionnelles ou les tyrannies traditionnelles, il restait une place pour la liberté privée. Et c'est cette place-là qui a été d'ailleurs investie par le christianisme, au moins aussi longtemps qu'il a été opprimé, mais aussi par les stoïciens. La thèse sur le totalitarisme d'Arendt est plus radicale en ce sens que dans le totalitarisme, même cet espace privé se trouve en quelque sorte anéanti. La possibilité de se rapporter librement à soi est remise en cause par le caractère fondamentalement monolithique du système.
Donc il y aurait une porosité de l'expérience de la liberté qui l'exposerait au fond à l'emprise du totalitarisme.
Oui, car
de son point de vue.
La grande source d'étonnement d'Arendt, c'est que toutes les théories libérales des droits de l'homme se sont révélées totalement, qui insistent précisément sur ces droits subjectifs, sur ces droits privés en quelque sorte, ou de liberté privée, se sont révélées totalement inefficaces dès lors qu'il s'est agi de répliquer, je dirais, à la menace totalitaire. Et donc, d'une certaine manière, toute son œuvre postérieure aux origines du totalitarisme est une œuvre que l'on peut regrouper sous l'exigence suivante, ou que l'on peut aborder sous l'exigence suivante. Comment penser les conditions d'un monde non totalitaire, c'est-à-dire d'un monde qui ne se contente pas, je dirais, d'affirmer libéralement la liberté privée et puis de remiser un peu les libertés publiques, mais de penser ensemble l'exercice public de la liberté et la préservation d'une liberté, l'exercice pardon, de la liberté publique et la préservation d'une liberté individuelle.
Ce qui passe, du point de vue de Arendt, par le privilège accordé à l'exercice public de la liberté, ce qui fait d'elle, d'une certaine manière, je ne sais pas ce que vous en pensez, une philosophe grecque, philosophe à l'ancienne, c'est-à-dire qu'elle renoue avec l'idéal antique d'une liberté conquise à l'intérieur même de l'espace politique, et non pas seulement d'une liberté rétractile ou d'une liberté qui se contenterait d'un repli en coquille sur la sphère privée.
Oui, c'est incontestablement une philosophe grecque. Il faudrait rajouter en même temps que d'abord, il n'y a pas de mot en grec pour dire liberté précisément, et c'est bien pourquoi c'est une expérience pour elle. Et lorsqu'elle parle de la Grèce, au moins lorsqu'elle en parle positivement, ça n'est pas tant des philosophes grecs comme Platon, qui n'est pas spécifiquement un penseur de la liberté politique.
Il préfère la justice.
Voilà, il préfère la
justice.
Ou
l'idée qu'il s'en fait, oui.
Et même chez Aristote, en somme, il n'y a pas véritablement de pensée de la liberté. Encore que là, au moins, il y a, je dirais, une pensée de la démocratie. Mais lorsqu'elle parle des Grecs positivement, elle parle de cette expérience de la fondation d'une cité. Une cité, c'est-à-dire qu'elle entend précisément comme l'espace d'apparition, le lieu, le domaine dans lequel la liberté va pouvoir se manifester au travers de confrontations, de conflits, de débats et d'actions qui vont permettre finalement d'extérioriser cette capacité humaine à agir, à commencer, hein, car la liberté, c'est fondamentalement pour Hannah Arendt la capacité de commencer, d'initier. La liberté est initiative. Et d'une certaine manière, cette expérience grecque de la liberté sera perdue progressivement via effectivement le christianisme, puis les grandes doctrines modernes de la subjectivité, Descartes et Kant, d'une certaine manière. Et la thèse d'Arendt, c'est finalement de dire qu'il faut, au lendemain du totalitarisme, c'est-à-dire au fond de l'expérience selon laquelle la liberté politique peut être anéantie, ce qu'elle appelle la désolation. La désolation, c'est littéralement l'effondrement du sol, du monde dans lequel nous pouvons vivre, nous mouvoir et penser. Eh bien, au lendemain de cette expérience traumatisante, il faut penser les conditions de possibilité d'un rétablissement du politique. Et j'ajoute simplement qu'elle le fait, Hannah Arendt, dans les années donc 50-60, c'est-à-dire, il faut bien le dire, à un moment où sur la sphère philosophique ou dans le domaine philosophique, la politique ou le politique comme tel était le plus souvent considéré comme totalement secondaire, hein, comme une superstructure, pour parler comme les marxistes, par rapport au mode de production économique.
Pour parler comme les marxistes et comme les libéraux.
Et comme les libéraux, en effet, puisque...
c'est la sainte alliance des marxistes et des libéraux sur ce point-là, c'est que pour l'un comme pour l'autre, il y a un déni du politique, ou en tout cas un discrédit posé sur le politique, où le politique est présenté soit comme l'alibi, soit comme le maquillage de logique qui le dépasse.
En effet, d'ailleurs Arendt a, à l'encontre du libéralisme, des oppositions de fond, en particulier ce qu'on a évoqué jusqu'ici, c'est-à-dire l'idée que la liberté serait d'abord la liberté de se retrancher du monde, la liberté de conscience, la liberté privée, mais elle a aussi des reproches politiques, je dirais, c'est-à-dire que elle voit ou elle perçoit dans le triomphe du libéralisme une certaine tendance ou un certain désir de se débarrasser de la politique. Et là aussi, elle est aux premières loges pour en juger. Car pourquoi cherche-t-on à se débarrasser de la politique ? Eh bien, d'une certaine manière, pour se débarrasser du totalitarisme. C'est-à-dire qu'au fond, il y a au lendemain, effectivement, des drames du XXe siècle, un désir qu'elle perçoit très, très, très fort de se retrancher sur la vie privée, sur la recherche des intérêts, sur ce qu'elle appelle la vie, hein, la vie au sens, disons, de ce qu'il y a de plus intime chez les individus, au détriment du politique, parce que la politique, c'est, mais cela Arendt le refusera constamment, ce serait le sacrifice nécessaire des individus à la chose publique.
Je me demande à cet égard, et en vous écoutant parler d'Hannah Arendt, Michael Fossel, ou de Hannah Arendt, sinon je vais me faire tirer dessus par quelques puristes, je me demande à cet égard si l'ancêtre d'Hannah Arendt ou de Hannah Arendt, ça n'est pas Tocqueville plus encore que Kant, puisqu'après tout, Tocqueville est quand même le penseur d'une liberté dont la condition de possibilité, c'est l'aptitude citoyenne, il faut bien le dire, à investir l'espace public, laissé vacant entre un gouvernement abstrait et d'un autre côté, le repli ou l'atomisation du citoyen sur la sphère privée.
Certainement, en tout cas, de ce qui chez Tocqueville relève de son non-libéralisme, je dirais, cela, elle l'accueille. L'égalisation des conditions, ce que Tocqueville observe déjà de dépolitisant dans la démocratie américaine, d'ailleurs Arendt parle très peu de la démocratie moderne, ce qu'elle observe, ce que Tocqueville donc voit sous ses yeux, c'est-à-dire une espèce de repli sur la vie privée au détriment de l'investissement dans la cité, et bien effectivement Arendt le tient pour acquis. D'une certaine manière, dans le fameux débat initié par Benjamin Constant, liberté des anciens contre liberté des modernes, elle prend plutôt
le parti... Où il fait valoir la liberté des anciens comme une liberté politique, voilà. Et la liberté des modernes comme le droit qui est fait de dire le droit qui est fait à chacun de dire c'est mon droit, hein, au fond, et donc je me
comme une liberté économique aussi, c'est-à-dire la liberté de pouvoir investir individuellement. Bon, de ce point de vue-là, Arendt est plutôt du côté de la liberté des anciens, incontestablement.
Alors, il y aurait beaucoup à dire sur Tocqueville, profitons-en, hein, juste quand même pour rappeler que il est possible de conduire avec Tocqueville une critique très efficace du libéralisme lui-même. Tocqueville, qu'une étiquette commodément posée et hâtivement posée sur ses travaux, quand on les a pas lus, identifie à un penseur du libéralisme. Alors, il est peut-être penseur du libéralisme, mais en tout cas, à partir de Tocqueville, on peut critiquer ce qu'un libéralisme peut avoir d'outrancier en termes de repli sur soi et ce qu'il y a de potentiellement totalitaire, justement, dans le repli sur soi, dans le désinvestissement de la sphère publique.
Oui, certainement. En France en particulier, on a joué Tocqueville contre Marx à un moment. Bon, donc évidemment, on insistait sur son libéralisme. Mais le problème du libéralisme, c'est de savoir quelle liberté on promeut. Et donc, s'il s'agit de la liberté simplement privée, de la liberté d'entreprendre, alors là, effectivement, Tocqueville, pas plus qu'Arendt d'ailleurs, ne sont des libéraux. En réalité, ils promeuvent, enfin c'est clairement le cas en tout cas pour Arendt, une liberté engagée. Une liberté qui...
Pour Tocqueville aussi. Oui, l'association, les journaux, les partis politiques, les syndicats, etc., etc. C'est la condition de la liberté chez Tocqueville.
Bien sûr, bien sûr. Et on trouverait d'ailleurs chez l'un et chez l'autre une, je dirais au moins un sentiment mêlé à l'égard des démocraties modernes ou des démocraties contemporaines. C'est-à-dire qu'effectivement, pour l'un comme pour l'autre, alors pour Arendt évidemment, elle vient à la fin de ce processus, les démocraties modernes, par leur dépolitisation, par la dépolitisation qui les caractérise, sont porteuses d'un certain nombre de dangers.
Liberticide.
Risque de liberticide, c'est-à-dire sauter, comme le dit Tocqueville, la peine de penser hein, au profit, disons, de recherche simplement de bonheur, de joie individuelle, de joie dépolitisée.
Le trouble de vivre et la peine voilà. de penser, c'est le despotisme sournois dont parle Tocqueville dans La démocratie en Amérique. On va continuer avec vous, Michael Fossel, cette analyse de la question, cette analyse extraordinairement subtile hein, que fait Arendt de la question de la liberté, en lui opposant la caricature d'un système totalitaire tel qu'il est décrit par Ray Bradbury. Dans Fahrenheit 451, écoutez, c'est Anne Brissier qui le lit.
Si vous ne voulez pas qu'un homme se pose des problèmes d'ordre politique, ne lui donnez pas deux solutions à choisir, ne lui en donnez qu'une. Mieux, ne lui en donnez pas du tout. Qu'il oublie jusqu'à l'existence de la guerre. Si le gouvernement est inefficace, tyrannique, vous écrase d'impôts, peu importe tant que les gens n'en savent rien. La paix, Montag. Instituer des concours dont les prix supposent la mémoire des paroles de chansons à la mode, des noms des capitales d'État ou du nombre de quintaux de maïs récoltés dans l'Iowa l'année précédente. Gaver les hommes de données inoffensives, incombustibles, qu'ils se sentent bourrés de faits à éclater, renseignés sur tout. Ensuite, ils s'imagineront qu'ils pensent. Ils auront le sentiment du mouvement, tout en piétinant. Et ils seront heureux. Parce que les connaissances de ce genre sont immuables. Ne les engagez pas sur des terrains glissants comme la philosophie ou la sociologie, à quoi confronter leur expérience. C'est la source de tous les tourments. Tout homme capable de démonter un écran mural de télévision et de le remonter, et de nos jours ils le sont à peu près tous, est bien plus heureux que celui qui essaie de mesurer, d'étalonner, de mettre en équation l'univers, ce qui ne peut se faire sans que l'homme prenne conscience de son infériorité et de sa solitude. Je le sais. J'ai essayé. Foutaise. Conclusion, tenons-nous-en aux clubs, aux réunions, aux acrobates, prestidigitateurs, casse-cou, bolides à réaction, motogyroplane, au sexe et à l'héroïne. Tout ce qui ne suppose que des réflexes automatiques. Si la pièce est mauvaise, si le film n'a pas de sens, collez-moi une dose massive de thérémine. Je me croirais sensible au spectacle, alors qu'il s'agira seulement d'une réaction tactile aux vibrations. Mais je m'en fous. Tout ce que je demande, c'est un passe-temps solide. De nos jours, il nous faudrait ajouter la dernière forme, peut-être la plus impressionnante de toutes ces hégémonies, la bureaucratie. Pouvoir d'un système complexe de bureaux où ni un seul, ni les meilleurs, ni le petit nombre, ni la majorité, personne ne peut être tenu pour responsable et que l'on peut fort justement qualifier de règne de l'anonyme. Michael Fossel, le philosophe Michael Fossel, est l'invité des Nouveaux Chemins de la Connaissance ce jeudi dans une semaine sur Hannah Arendt. Michael Fossel, Hannah Arendt est-elle le philosophe ou la philosophe
de toutes ces modalités par lesquelles on distrait le peuple du souci politique, au fond. On a entendu dans le texte de Bradbury tout à l'heure, les clubs, les réunions, les acrobates, les prestidigitateurs, casse-cou, les bolides à réaction, les motos gyroplanes, le sexe, l'héroïne, la térémine, bref, le spectacle, les passe-temps solides, auxquels j'ai eu envie d'ajouter, et c'est un texte d'Anna Arendt extrait du mensonge à la violence, ce qu'elle dit aussi de la bureaucratie, c'est-à-dire finalement ces modalités sournoises du totalitarisme. Est-ce qu'on peut additionner tout cela? Est-ce qu'Anna Arendt permet de penser, de lutter contre l'avachissement sous le règne implicite de ces distractions?
Sans doute, je ne suis pas sûr. Il y a des textes d'Arendt, si vous voulez, où elle donne le sentiment, mais je ne le partagerai pas pour le coup, qu'on peut mettre sur un plan, sinon d'égalité, du moins de commensurabilité, tous ces phénomènes qui iraient, disons, de la distraction à la bureaucratie totalitaire. Bon, mais fondamentalement, bon, elle insiste quand même sur des
plutôt
hiérarchies.
Plutôt le sexe que la bureaucratie,
tant qu'à faire, oui.
Faisons une différence, effectivement.
Surtout que l'un exclut généralement l'autre. Donc, en réalité, il y a chez elle parfois, dans un certain nombre de textes, une réaction, je dirais pas anti-moderne, mais c'est vrai, en tous les cas, un refus un petit peu aristocratique ou républicain au sens romain du terme, des plaisirs privés. Maintenant... en même temps, c'est quelqu'un qui n'entendait nullement sacrifier, je dirais, la liberté privée à la liberté publique.
C'est pas Rousseau non plus, hein, c'est
voilà,
ça.
Précisément parce que le phénomène totalitaire lui a enseigné que l'une ne va pas sans l'autre, ou plus exactement que la liberté privée présuppose la liberté publique. Ce qu'elle a critiqué de manière constante, et je crois au fond tout à fait intéressante, c'est l'ensemble des tentatives pour échapper à la politique, car la politique est un fardeau de la même manière que la liberté. C'est l'ensemble
un fardeau libérateur.
Voilà, un fardeau qu'on peut relever, qu'on peut mettre sur le compte de la servitude volontaire. Et à chaque fois, au fond, dit-elle, que l'on a voulu échapper à la politique, on a inventé une nouvelle forme de nécessité. Nécessité divine, lorsqu'il s'agissait d'un refus religieux ou théologique, providence donc, pour échapper à la politique. Nécessité sociale, lorsqu'on a voulu penser le progrès historique comme un mécanisme dans lequel les hommes n'ont finalement aucune, sur lequel les hommes n'ont aucune prise. Et enfin, nécessité bureaucratique, dès lors qu'il s'agit de réduire l'action humaine à un ensemble de mécanismes auto-promus, d'une certaine manière, et qui, encore une fois, enlève aux hommes la peine de se manifester, je dirais, leur intériorité dans l'espace public.
Quand Tocqueville parle du trouble de vivre, de la peine de penser, que le despotisme sournois des régimes démocratiques, c'est-à-dire la façon dont les régimes démocratiques deviennent sournoisement eux-mêmes, je mets le mot ici entre guillemets totalitaire, la façon dont les régimes démocratiques en tout cas étouffent le désir de liberté, c'est-à-dire de liberté politique, Tocqueville est au même titre que le premier Marx ou le Marx des premiers écrits, le penseur de l'avachissement des consciences au fond. Et ils ont en commun, Tocqueville, Marx, Rousseau, Arendt, de faire du citoyen ou de l'aptitude au citoyen à se saisir des affaires publiques l'une des conditions de la liberté, l'une des conditions d'exercice de la liberté. C'est dire l'importance que joue le rôle de l'éducation et le risque également que constitue l'oubli tel qu'il est caricaturalement mis en scène, notamment dans Fahrenheit 451, qui brûle les livres au nom, justement, de se débarrasser du passé. Alors, on sait que Hannah Arendt ne fonde pas son anthropologie politique sur le culte du passé, mais sur le constat du présent et sur le regard du présent. Néanmoins, Hannah Arendt est également de ces penseurs qui nous mettent en garde contre le risque de l'oubli.
Oui, et dans son texte qui s'intitule « Qu'est-ce que l'autorité ?», encore une formulation d'ailleurs discutable, « Qu'est-ce que l'autorité ?», elle commence son texte quasiment en disant « Bon, bah, poser la question, c'est déjà répondre ou suggérer qu'elle a disparu. » Et de fait, l'autorité a disparu du monde moderne si par autorité on entend une référence à un passé saisi comme transcendance, comme quelque chose qui continue à faire norme. Cela étant, il a été fait beaucoup d'usages politiques d'Anna Arendt, je dirais, de l'extrême gauche à l'extrême droite.
Vous diriez à l'extrême droite ?
Ou disons à la droite de la droite. Bon,
parce que la droite extrême et l'extrême droite, c'est pas la même chose.
Voilà, hein, oui, jusqu'au moment où elles finissent par s'allier. Mais disons qu'en tous les cas, là, on est dans une vision extrêmement conservatrice. Moi, il me semble qu'il faut s'interroger, concernant Arendt, sur ce qu'elle entend par tradition. Et elle a cette formule de la tradition des commencements. En réalité, lorsqu'elle pense
la natalité,
lorsqu'elle pense l'autorité, elle pense l'autorité comme il faut le penser, de la pensée d'ailleurs, c'est-à-dire comme autorité au sens romain du terme. Et l'autorité, c'est l'autorité de la fondation de la cité. Et Hannah Arendt, c'est quelqu'un qui pense liberté, action, autorité et politique sous le commun dénominateur du commencement, dont, je dirais, l'expérience, qui n'en est pas véritablement une d'ailleurs, et la natalité, comme vous l'avez suggéré.
Ce qui est une métaphore hein, chez Arendt. Hein, c'est une natalité, ce n'est pas la pyramide des âges en
non, l'occurrence. Non, c'est une métaphore, mais en même temps, c'est un phénomène, si vous voulez, qu'elle oppose d'ailleurs très vraisemblablement à la mortalité qui avait été promue au rang de grande réalité ontologique par Heidegger. Et à la suite d'ailleurs de Merleau-Ponty, elle insiste beaucoup sur cette idée que ce qui caractérise fondamentalement l'homme, c'est la natalité, c'est-à-dire d'être lui-même un commencement. Un commencement, chaque individu dans sa singularité est un commencement qui ne l'a pas choisi, qui a été choisi, bon, et qui en même temps doit être, non, je ne dirais pas répété, mais réinvesti dans l'action. L'action, c'est ce qui doit répondre à la natalité, c'est-à-dire en réalité, retrouver, réinjecter du commencement dans la vie. Et cela, c'est fondamentalement politique. D'où son goût, d'ailleurs, assez peu conservateur, pour le coup, pour les grandes expériences politiques d'insurrection. Car Hannah Arendt, lorsqu'elle a un regard, je dirais à la fois d'ailleurs tendre et intéressé pour des événements politiques, c'est systématiquement les événements révolutionnaires d'insurrection que l'on pense par exemple, bien évidemment, à Philadelphie 1776, mais aussi, c'est une référence très importante pour elle, le conseillisme de Rosa Luxembourg, et puis enfin la révolte de Budapest en 1956. Dans tous ces cas, se constitue par la parole, par une série d'actions, mais la parole est une action, des espaces publics, je dirais, transversaux par rapport aux espaces reconnus tels les assemblées. Donc l'espace public se constitue par une intervention, par un commencement, un événement en réalité, qui vient rompre les processus historiques ou naturels attendus.
On va entendre, tiens, justement, une description de l'entrée des chars russes à Budapest. Écoutez.
Ici Raoul Bailly qui vous parle de Vienne. À l'optimisme trompeur qui régnait hier à Budapest, a succédé la furie des combats, l'angoisse et la mort. Afin de vous donner une vue d'ensemble, je vais dérouler pour vous le film de cette terrible journée. 6h du matin, le président Nagy lance par Radio Budapest un appel annonçant que les Russes ont commencé à 6h du matin l'attaque de la capitale. Nagy termine son appel en s'adressant à la nation hongroise et à l'opinion mondiale. Les forces lancées à l'assaut de Budapest sont d'environ 1000 tanks. Peu après 6 heures, les premiers blindés pénètrent dans Budapest par les rues Rákóczi et Alkotas. Ils commencent à bombarder le quartier général des forces libres et le ministère de la Défense. 8 heures. L'agence de presse hongroise fait savoir que son immeuble est pris sous le feu des chars. Elle passe au télétype un dramatique message qui se termine par ces mots. Vive la Hongrie et l'Europe, nous allons mourir pour la Hongrie.
Nous allons mourir pour la Hongrie, disent les étudiants, écrasés par les chars. Hannah Arendt, vous avez parlé de Rosa Luxembourg tout à l'heure, Michael Fossel. C'est de Rosa Luxembourg qu'Hannah Arendt s'inspire pour parler notamment de l'impérialisme, ce qu'elle appelle l'impérialisme, dans son livre sur les origines du totalitarisme. Et il y a chez Hannah Arendt, en particulier dans Du mensonge à la violence, mais ailleurs aussi d'ailleurs, un éloge de la désobéissance civile. En tout cas, elle est philosophe de la désobéissance civile, sans être pour autant, c'est le moins qu'on puisse dire, un penseur révolutionnaire ou qui ferait d'un monde idéal une norme nouvelle qu'il s'agirait d'imiter en empruntant le chemin de la désobéissance. Quelles sont les conditions de possibilité ou de nécessité de la désobéissance civile chez Hannah Arendt et quel usage fait-elle de façon générale, non seulement de Rosa Luxembourg, mais de Marx ?
Alors, la désobéissance civile se distingue de la désobéissance tout court, précisément, et donc d'une certaine manière de la révolution, par son caractère civil. C'est-à-dire que c'est précisément au nom de principes politiques qui ne sont plus respectés, ou dont on juge qu'ils ne le sont plus par l'État ou pas, par l'État en place, que l'on se révolte. Autrement dit, c'est une révolution politique. Et Hannah Arendt, c'est certain, a d'ailleurs, avec certaines limites, mais enfin, elle a une vision extrêmement positive des révolutions qu'elle tient comme proprement ou pour proprement politique. Politique toujours au sens de ce qui constitue un espace public d'apparition. Son intérêt pour Rosa Luxembourg, c'est précisément que Rosa Luxembourg, c'est la représentante d'un marxisme non-bolchevique, c'est-à-dire démocratique, in fine. Et donc qu'il y a dans les conseils qui ont été constitués, l'envers positif des soviets, c'est-à-dire la possibilité ici de donner la parole, d'accéder à une parole qui est le plus souvent refusée. Donc la désobéissance civile, ce n'est pas du tout, contrairement à ce que l'on pourrait croire, la morale qui s'oppose, la conscience précisément de
l'individu. C'est pas Antigone.
Qui s'opposerait à la politique ou à la loi. En réalité, c'est la loi, je dirais, qui a changé de camp. C'est-à-dire que la loi est passée du côté des opposants, du côté des minoritaires et des contestataires.
Mais comment, dans ces cas-là, ne pas s'en tenir à la subjectivité d'un sentiment ? Au fond, il y a des gens qui, en toute bonne foi, peuvent aujourd'hui penser qu'en France, en 2010, nous vivons, par exemple, dans un régime totalitaire et qui considèrent que la loi a changé de camp. Que répondre à celui qui, mettant ses actes en conformité avec ce qu'il croit savoir du régime politique dans lequel il vit, pratique aujourd'hui la désobéissance civile ? Est-ce qu'il y a des critères objectifs qui permettent de dire à quelles conditions et dans quelles situation, la loi change de camp.
Alors, du point de vue de Arendt, je crains qu'il n'y ait pas de critères objectifs, parce que cela supposerait qu'elle ait, au fond, et ce qu'elle n'a pas fait, et n'a pas voulu faire d'ailleurs, constitué une théorie du droit, c'est-à-dire une théorie du devoir-être, de la normativité politique. Il me semble toutefois qu'on peut dire que la désobéissance civile, ça n'est pas simplement l'objection de conscience, ça n'est pas un phénomène individuel. C'est nécessairement un phénomène collectif, un phénomène public pour le coup. La désobéissance civile s'affiche publiquement dans de la contestation, qu'elle sous la forme de conseils, de manifestations, de révolutions. Hannah Arendt n'a pas été, je dirais, fondamentalement opposée au phénomène de mai 68, par exemple, au niveau international. Donc, c'est cette irruption dans le cours, je dirais, normal des institutions, d'une voix, mais d'une voix collective, qui passe par la désobéissance passive, peut-être pas forcément active et militante, mais au moins passive, c'est-à-dire le refus d'obtempérer. N'oublions pas non plus que Hannah Arendt a beaucoup, vous en parlerez, je crois, vous en avez parlé, pardon, hier, a beaucoup travaillé sur le cas Eichmann, c'est-à-dire sur cette tendance, je dirais, strictement bureaucratique, pour le coup, des individus à se déresponsabiliser et à obéir, au fond, aveuglément à la loi, quelles qu'en soient les conséquences, à la fois éthiques et politiques. Donc il y a là comme une insurrection, une surrection, si j'ose dire, qui, au fond, est ou manifeste cette condition de natalité dont nous parlions tout à l'heure, c'est-à-dire la possibilité d'introduire toujours du nouveau, toujours de l'inédit, et donc avec ce que cela représente d'ailleurs comme risque, hein, car la condition de l'action pour Hannah Arendt, c'est fondamentalement la fragilité, ce que cela implique de risque pour soi et pour les autres. Et donc de ce point de vue-là, c'est à la fois la force et la faiblesse de l'action que de n'être réductible à aucun schéma, de n'être réductible à aucun processus, de ne pas pouvoir être pensé sur le modèle, par exemple, de l'œuvre. Les trois catégories fondamentales de l'anthropologie d'Hannah Arendt, c'est le travail, l'œuvre et l'action. Et l'action n'est pas une œuvre.
On retrouve ça, cette tripartition fameuse, dans Conditions de l'homme moderne.
Conditions de l'homme moderne.
Ce qu'elle appelle la vita activa.
La vita activa. Et pour ne dire qu'un mot simplement du rapport entre œuvre et action, l'action n'est pas une œuvre. Cela veut dire qu'en réalité, il n'y a pas d'objet dans lequel l'action se réalise. Alors que l'œuvre, si vous voulez, lorsque l'on construit, c'est le modèle, si l'on veut, artisanal, lorsque l'on constitue un objet d'art ou un objet utilitaire, eh bien, d'une certaine manière, tout le produit de l'œuvre se termine dans l'objet. Et l'objet, d'une certaine manière, incarne la perfection de l'œuvre. Alors que l'action est par définition imparfaite, car elle ne trouve pas, sauf dans les institutions, qui sont, comme on le sait, temporaires et imparfaites, de répondants dans le monde. Donc il y a une fragilité fondamentale de l'action. Et il y a, j'ajoute aussi d'ailleurs, un danger absolu, et ça c'est très intéressant chez Arendt, à penser l'action sur le modèle de l'œuvre, parce que si l'on pense l'action sur le modèle de l'œuvre, on tombe nécessairement sur, sinon le totalitarisme, du moins cette idée, ce fantasme selon lequel on peut constituer la nature humaine, construire le nouvel homme, constituer un État à partir de rien. Et cela, Hannah Arendt en voit la trace, y compris, puisque vous l'indiquiez ou vous en parliez tout à l'heure, dans un certain marxisme.
Mais sans verser dans une représentation démiurgique de sa propre action constitutive, il faut quand même insister sur cette question de la natalité, c'est-à-dire le caractère inaugural de chaque être, au fond. Et l'idée peut-être arento-sartrienne qu'au fond, nous sommes condamnés à être libres et qu'il nous appartient d'assumer justement cette liberté. Ce caractère inaugural de l'action chez Hannah Arendt, est-ce qu'on ne peut pas en donner une lecture jurisprudentielle c'est-à-dire, au fond, parler de désobéissance civile en expliquant que la loi a changé de camp, est-ce que ça n'est pas une invitation à comprendre les phénomènes de désobéissance comme ultérieurement ou à terme normatifs, producteurs eux-mêmes de lois? Vous avez cité mai 68. Qui sait si la mixité aurait fait de tels progrès? La mixité dans les écoles sans mai 68, sans la protestation, sans mars 68 d'ailleurs, puisque c'est Danny Cohn-Bendit qui en mars 68 s'indignait du fait, je crois, que les piscines n'étaient pas mixtes et qui donc, à cet égard, inscrit mai 68 sous l'égide d'une revendication ô combien légitime, qui est la revendication de mixité. De la même manière, qui sait si la revendication du droit à disposer de son corps n'aurait pas débouché ultimement sur la loi Veil, ou plus exactement, si ça n'est pas cette revendication qui a permis de déboucher sur la loi Veil. Est-ce qu'au fond, avec ces modèles d'activité ou d'action produisent ensuite leurs lois, leurs décrets, leurs modifications substantielles à l'intérieur du gouvernement d'une société, qui sait si on n'a pas là justement de quoi penser avec Arendt à la fois la désobéissance civile et également le devenir législatif de la désobéissance civile.
Oui, dans la mesure où pour Arendt, la politique ne se borne pas aux États et aux institutions publiques, je dirais, mais à l'espace public qui, en droit, peut se constituer dans la rue, je dirais, qui se constitue d'ailleurs plus par des paroles que par des gestes. En ce sens, effectivement, la politique peut s'emparer d'une certaine manière, ou du politique peut apparaître dans n'importe quel espace social. Et de fait, les manifestations, les exigences, je dirais, qui portent sur ce qui dépasse d'habitude, tel qu'on l'entend généralement, les compétences politiques, peuvent se constituer à part ou à la marge, je dirais, des espaces publics. C'est un aspect qu'elle n'a pas elle-même, à ma connaissance en tous les cas, beaucoup développé, parce qu'il entrait un peu en opposition, si vous voulez, il entrerait un peu en opposition avec sa thèse, par ailleurs, qu'on a déjà évoquée, selon laquelle, au fond, ce qui relève du privé, de l'amour, comme elle le dit, n'est pas de l'ordre de la politique. Bon, or, il me semble qu'en réalité, c'est une thèse qui n'est pas exactement compatible avec ses autres intuitions.
C'est la question que j'allais vous poser. La thèse d'Hannah Arendt sur l'amour, qui sépare l'amour de l'activité politique, d'ailleurs le fait qu'elle ait fait de l'amour sa propre thèse, justement quand elle parle de Saint-Augustin, oui, tendrait à prouver qu'elle sépare l'amour de l'activité politique. Et pourtant, tout ce que vous dites, Michael Fossel, et d'ailleurs tout ce qu'on dit depuis le début de la semaine, montre bien qu'il y a quelque chose de l'ordre, non pas de la charité, mais de l'amour dans l'activité politique.
Oui, c'est-à-dire si on entend par amour ce qu'elle entend, elle, au moment où elle dit que l'amour n'est pas une passion politique, un idéal fusionnel, au fond religieux ou romantique à tout le moins, dans ce cas-là, effectivement, elle n'entre nullement en contradiction avec elle, mais avec elle-même. Mais en revanche, si on entend par amour, après tout, vous parliez de l'égalité des sexes, de la mixité, de toutes ces sphères, disons, qui relèvent alors apparemment du privé, si on entend par là, en fait, la nécessité de soumettre au débat public et donc aussi d'instituer un certain nombre d'exigences qui émanent de la sphère intime, alors il n'y a pas de raison, je dirais, de faire s'arrêter l'espace public aux limites de ce que nous entendons spontanément par public, c'est-à-dire tout ce qui relève de la loi. Et d'autre part, j'ajoute d'ailleurs qu'il y a tout de même au moins un amour que Hannah Arendt aura revendiqué pour la philosophie, c'est ce qu'elle appelle d'ailleurs elle-même l'amor mundi, l'amour pour le monde. Mais cet amour pour le monde, je ne suis pas sûr qu'il faille l'entendre seulement au sens... il n'y a pas d'amour sans sensibilité, je dirais. Bon. Et donc, par conséquent, cela implique quand même, tout de même, quelque chose de la vie et de la vie intime, et pas seulement, je dirais, de l'amour d'une idée qui serait celle de la politique idéale.
Et qu'en est-il alors chez Arendt de la question de la violence politique? Puisqu'on a parlé de désobéissance civile, quel est le statut, quel statut fait-elle à la violence politique, dans les deux sens, que ce soit la violence de l'État ou bien la violence revendicatrice et parfois légitimement revendicatrice de ceux qui sont gouvernés?
Alors, ce qu'elle entend, elle, par violence, c'est fondamentalement antipolitique. Cela n'impliquerait pas qu'il n'y ait pas des violences, je dirais, fondatrices, comme dans toutes les révolutions. Mais pour comprendre pourquoi la violence est antipolitique, il faut comprendre que pour elle, la violence s'oppose clairement au pouvoir et que l'une des des erreurs d'ailleurs des philosophes, et de croire, de confondre plutôt la politique et le pouvoir. Et cela nous renvoie à ce que nous évoquions tout à l'heure. Pour Arendt, l'expérience de la liberté, ce n'est pas une expérience de la volonté. C'est-à-dire, c'est pas une expérience que je fais par moi-même et par moi seul. Bon. Être libre, ça n'est pas être libre de vouloir, c'est être libre de faire. Et elle note à plusieurs reprises que croire que la liberté, c'est la volonté ou une volonté intérieure, mène nécessairement à une conception, une fausse conception du pouvoir. Pourquoi ? Parce que qu'est-ce que c'est que la volonté ? Bah, la volonté, c'est commander et obéir. Donc croire que la liberté est liée au commandement et à l'obéissance, c'est presque nécessairement se tromper sur le concept de pouvoir. Le pouvoir, c'est ce qui unit les hommes de manière, je dirais, horizontale. La violence est ce qui vient briser cette union sur un mode vertical. Donc pour répondre à votre question plus rapidement, il y a des violences qui relèvent peut-être du pouvoir, mais qu'elle n'appellerait pas violence, qui sont des violences qui constituent la désobéissance civile, qui constituent les conseils, qui constituent des phénomènes révolutionnaires ou insurrectionnels qu'elle approuverait. Et puis il y a la violence généralement d'État, d'ailleurs, qui, elle, vient briser un espace public, ça serait plutôt là ici l'entrée des chars russes à Budapest, qui vient briser la politique ou l'espace public, c'est-à-dire au fond la domination.
Alors, vous avez parlé des chars russes. Elle dit ceci dans Du mensonge à la violence. La confrontation récente entre les chars russes et la résistance, alors là, elle parle de Tchécoslovaquie, mais entre les chars russes et la résistance totalement non violente du peuple tchécoslovaque constitue un exemple typique de l'opposition entre la violence et le pouvoir à l'état pur. Je voudrais qu'on entende, puisqu'on arrive quasiment au terme de cette émission, tout de même, un petit extrait de ce si beau film qui s'appelle La vie des autres, où ça se passe cette fois-ci en RDA, autre modalité, hein, autre lieu de violence politique s'il en est, en RDA, où il s'agit d'écouter quelqu'un, de mettre quelqu'un sur écoute, et c'est un agent de la Stasi qui, sans se faire violence à lui-même d'ailleurs, mais en lisant Brecht et en écoutant, en entendant ce qu'il écoute, se voit lui-même, finit par se faire violence à lui-même, c'est-à-dire par renoncer à l'exercice de la violence. C'est notamment le cas dans ce très bref extrait tout à fait significatif. Écoutez.
Est-ce que tu es vraiment à la Stasi ?
Et toi, tu sais vraiment ce que c'est ? La Stasi.
Oui, c'est des hommes méchants qui nous font enfermer, dit mon papa.
Ah bon ? Comment s'appelle-t-on ?
Mon quoi ?
Ballon. Comment s'appelle ton ballon ?
T'es pas un peu débile ? Les ballons, ils ont pas de nom.
C'est génial ça, Michael Fossel. Ouais. Hein. Il s'apprête à lui demander le nom de son père, évidemment, pour l'encager. Et puis, et le voilà saisi par une espèce de souffle de liberté qui fait qu'il se jettera d'ailleurs, qu'il sera radieux de découvrir ou d'apprendre la chute du mur de Berlin en 89. Voilà un homme qui finalement renonce à la tutelle totalitaire dont il était jusqu'ici l'ambassadeur, l'émissaire le plus zélé.
Vous noterez d'ailleurs que pour faire une interprétation un peu arendtienne de cet extrait, il a besoin de Brecht, auteur qui compte beaucoup pour Arendt, donc, et puis d'un enfant. Or, Arendt, lorsqu'elle parle d'Eichmann, cette fois-ci, parle du défaut de pensée, de l'incapacité de penser et de juger des criminels ou de ceux qui, au fond, se rendent complices des systèmes totalitaires, à quoi elle oppose la pensée définie de manière très socratique, d'ailleurs, par le deux en un, c'est-à-dire le dialogue. Et c'est précisément par le dialogue, c'est-à-dire par l'entente d'une voix autre, ici dans notre extrait, celle d'un poète ou celle d'un enfant, deux figures, je dirais, de l'innocence, c'est par cette parole reçue, cette parole, d'une certaine manière, fait violence aux fonctionnaires de la Stasi, mais c'est une bonne violence, c'est-à-dire celle qui précisément va lui permettre de reprendre sur lui-même la responsabilité de ses actes et de rompre avec le système anonyme dont il s'est fait depuis des années un rouage.
Mais Michael Fossel, je suis content que vous évoquiez le 2 en 1. On arrive au terme de cette émission, mais quand même un point là-dessus. Le 2 en 1, elle le définit comme le dialogue intérieur dans lequel on converse avec soi-même. Quelle différence y a-t-il entre cela et la liberté au sens stoïcien du terme ?
Bah parce que probablement que le dialogue...
La liberté intransitive.
Bien sûr, hein. Mais le dialogue intérieur est un dialogue, je dirais, pas un monologue. Et donc, aux yeux d'Arendt, il ne peut malgré tout être provoqué que par un phénomène du monde, que par quelque chose qui est une sorte de choc, qui, de l'extérieur, vient vous interpeller. C'est-à-dire que la pensée est un phénomène du retrait. Hein. Et chez Hannah Arendt, quel lapsus, il y a toujours une tension entre l'appartenance au monde et la pensée comme retrait, mais en même temps, nous pensons hors du monde, mais depuis le monde. Nous, de la même manière d'ailleurs que nous naissons du monde, mais nous naissons en même temps dans le monde. Donc c'est cette position d'ailleurs certes inconfortable et toujours sujette à débat et à conflit que la philosophie doit adopter dès lors qu'elle veut se mesurer à la politique comme à un phénomène fondamental.
Une position inconfortable qu'on pourrait qualifier de condition de l'homme moderne tout simplement. On retrouve ici d'ailleurs l'intuition phénoménologique qui consiste à rencontrer un monde dont on est partie prenante. Au fond, être juge et partie, c'est également l'enjeu. C'est sur ces incertitudes et sur ces difficultés que cette conversation s'achève. Merci, Michael Fossel, d'être venu nous voir une fois de plus.
Qui peut dire où vont les fleurs du temps qui passe? Qui peut dire où sont les fleurs du temps passé? Quand va la saison jolie, les jeunes filles les ont cueillies. Quand saurons-nous un jour, quand saurons-nous?
Michael Fossel, je profite de votre présence, même si ça n'est pas le sujet du jour, pour signaler que des lectures de Kant, de votre part, viennent de paraître chez Ellipse. Vive Ellipse d'ailleurs, hein, les livres chez Ellipse sont toujours excellents. Je signale également, parmi les livres cités aujourd'hui, hein, Du mensonge à la violence et La crise de la culture, Hannah Arendt, encore et toujours.
Quand va le temps des chansons?
Marlène Dietrich aussi, encore et toujours, cette semaine. Hein, c'est une version, cette fois-ci, en français, Où sont les fleurs?
Un jour, quand saurons-nous un jour? Mais où vont tous les garçons du temps qui passe?
10h50 sur France Culture, tout de suite, le journal des Nouveaux Chemins et Adèle Van Rett. Bonjour Adèle.
Bonjour Raphaël. Difficile de ne pas entendre du mauvais esprit ou de l'ironie lorsqu'on dit de quelqu'un qu'il est gentil. Il est gentil, sous-entendu, il n'a aucune autre qualité et certainement pas celle de la finesse intellectuelle ou de la grandeur d'âme. Eh bien, je vous propose de prendre le contre-pied de cette interprétation et de faire aujourd'hui l'éloge de la gentillesse. Bonjour Emmanuel Jafflin.
Bonjour Adèle.
Vous êtes l'auteur de cet éloge de la gentillesse qu'on trouve chez François Bourin, éditeur. Éloge courageux, puisque vous vous donnez pour tâche de montrer en quoi la gentillesse est bien différente de la mièvrerie ou de la naïveté, contrairement à l'idée qu'on s'en fait aujourd'hui, Emmanuel Jafflin, car ça n'a pas toujours été le cas.
Oui, alors l'idée, c'est un grand mot. Disons qu'il y a un préjugé qui traîne sur la gentillesse et qui fait d'elle une forme de faiblesse. Et j'ai essayé de comprendre, historiquement, comment la gentillesse, qui signifiait au départ la noblesse, en était venue à signifier la faiblesse. Donc j'en ai fait une petite archéologie. Et me plongeant dans les textes, j'ai d'abord constaté que les philosophes avaient jeté, sinon la gentillesse, dans des oubliettes, du moins dans un angle mort. Et je me suis intéressé à la jeunesse du terme. Alors le gentilis, à l'origine, désigne le noble, le patricien, celui qui est héritier des 100 familles qui fondèrent Rome, et il est synonyme de noblesse. Dans la Rome antique, il n'est point question de gentillesse, mais de gentilitas, c'est-à-dire de ce clan qui fait qu'on appartient aux 100 familles. Puis, petit à petit, par une dérivation du langage, dont les langues ont le secret et dont j'essaye de retracer le chemin assez complexe, le gentil va signifier, petit à petit, l'étranger, les nations. On en a gardé un héritage à travers le droit des gens, le droit international. Et cette notion va être récupérée par le christianisme pour traduire le mot juif, goy, qui désigne celui qui n'est pas juif. Sans aucun préjugé, mais sur un simple constat factuel. Et on s'aperçoit que le gentilis, pour saint Augustin, pour Tertullien, pour saint Thomas particulièrement, va désigner le non-chrétien. Et le non-chrétien, puisque saint Thomas est l'auteur, non pas d'une somme contre les gentils, mais de ce qui sera édité sous ce titre, va rassembler à la fois les hérétiques, les juifs, les mahométans et les non-chrétiens en général, les païens.
Donc le christianisme aurait introduit une charge négative au sein de la notion de gentillesse.
Absolument, c'est là qu'apparaît la première connotation négative, mais si on doit garder au christianisme son originalité ou son génie, le chrétien va faire du non-chrétien un chrétien potentiel, donc un chrétien en puissance. Et si saint Paul, qui ne parlait pas latin mais grec, a été nommé l'apôtre des gentils, c'est parce que justement il prend son bâton de pèlerin pour convertir les non-chrétiens en chrétiens. Donc la première charge négative portée contre le gentil et pas contre la gentillesse, elle nous vient du christianisme. Puis le Moyen-Âge va redécouvrir le patricien, va essayer de redorer le blason de la noblesse en faisant un gentil homme. Et c'est Guillaume Budet qui va mettre bord à bord les deux termes, fabriquer le néologisme et considérer que l'aristocrate est un gentil homme. L'histoire durera quelques siècles, mais la Révolution française arrive, pendra les aristocrates à la lanterne et le gentilhomme est à son tour guillotiné. Donc la gentillesse qui n'existe jusqu'à la Révolution française que comme marque de l'esprit de cour, que comme raffinement, que comme douceur, mais comme douceur sociale, se trouve doublement condamnée. Alors, la gentillesse n'est pas exclusive de la bienfaisance, mais on voit que l'opprobre pèse sur ce mot, et il est difficile de lui reconnaître sa légitimité, sa noblesse. Et j'ai voulu, dans ce livre, montrer qu'on pouvait la revaloriser, la resémantiser, pour le dire très simplement et comme Deleuze, en forger un concept, et prôner l'avènement d'un nouveau gentilhomme, et faire de cette vertu qui n'est ni petite ni grande, ni théologale, une vertu moyenne qui produit des effets.
Alors, vous venez de citer Deleuze, justement, et vous en parlez dans votre livre, hein, puisque vous proposez de retracer l'origine rhizomique de la gentillesse. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ?
Ça veut dire que la gentillesse, elle a au moins trois racines. Elle a une racine romaine, elle a une racine médiévale, renaissante, et puis elle a une racine moderne. Donc, j'essaye de montrer comment ces racines s'enchevêtrent et comment de ces trois racines, on peut tirer un sens positif, un sens actif, et faire de la gentillesse, sinon le fer de lance, en tout cas la base et le fondement d'une nouvelle morale. D'une morale qui est contemporaine d'une humanité qui a été désertée par les dieux, d'une humanité dans laquelle l'horizon de la transcendance s'est quand même amenuisé, et dans laquelle les morales que j'appelle impressionnantes, celles du paganisme, qui étaient des morales de sagesse, celles du christianisme ou des monothéismes, qui nous présentent devant le regard des modèles de sainteté, comment ces deux modèles s'effacent, et en face de quoi on reste ?
Alors ça, c'est intéressant, puisque justement, là, on voit l'articulation entre la dimension historique et la conceptualisation du terme même de gentillesse. Et ce qui est très intéressant, enfin, dans votre livre, c'est que vous montrez bien en quel sens c'est à partir du moment où l'on a le retrait de Dieu et le recul du politique que la gentillesse peut reprendre un sens, comme si c'était en fait l'absence de transcendance qui conduisait à une revalorisation de la gentillesse.
Absolument. Je crois que l'absence de repères aujourd'hui vient aussi de la disparition de la verticalité, de notre relation à Dieu, à l'invisible, à la transcendance, et ne sachant plus à quel sens vouer, on se vautre dans le subalterne, on fait l'apologie du plaisir, d'un nouvel hédonisme, d'un nouvel humanisme qui serait proche des plaisirs, et on invoque soit le surhomme, qui est une figure littéraire qui est venue remplacer le sage et le saint, mais qui, à ma connaissance, même s'il y a quelques Nietzschéens perdus dans les universités, ne font pas des surhommes en acte. Et on a par ailleurs des super-héros qui sont vantés et qui sont un modèle littéraire alternatif, plutôt américain, et qui sont des super-flics. Et donc, on se dit quel est l'ordre moral qui peut surgir de cette vacuité religieuse. Qu'est-ce qui peut encore relier les hommes ensemble ? Et je crois que dans la gentillesse, il y a à l'œuvre, de manière souterraine, de manière rhizomique cette fois, c'est le deuxième appel que je fais à Deleuze et aux Racines, la capacité à tapisser notre société de petits gestes qui ne sont pas des sacrifices, et qui se distingue en ce sens de la morale du sacrifice, de la morale chrétienne, qui est une morale impressionnante, et qui fait appel à une morale du service, une morale des petits gestes, qui est une morale impressionniste, mais qui permet par petites touches de faire de chacun de nous, de manière éphémère, de nouveaux gentilshommes.
Donc la gentillesse serait le fondement d'une morale de tous les jours, d'une morale de l'ordinaire.
D'une morale à portée de main, à hauteur d'homme, et d'une morale non culpabilisatrice.
Merci beaucoup Emmanuel Jafflin. On a réussi en quelques minutes à vraiment donner un aperçu très, très précis de votre livre. Alors bon, je renvoie les auditeurs à ce livre, puisque tout ce qu'on vient de dire là est développé, argumenté, explicité. C'est vraiment très clair et très très intéressant à lire. Donc ça s'appelle L'éloge de la gentillesse, et on trouve ça chez François Bourin, éditeur.
Et on finit avec La Chine, je crois.
Et oui, les éditions Oxus publient un livre intitulé L'espace de la pensée chinoise, qui peut se lire comme une introduction aux différents courants de pensée qui ont irrigué la pensée chinoise à travers les siècles. L'auteur est Alexis Lavis, doctorant en philosophie et spécialiste de la philosophie orientale, et dans ce livre, il présente ce qui distingue et relie entre eux le confucianisme, le taoïsme et le bouddhisme. Les présentations sont à la fois thématiques et par auteur, puisque sont présentées les grandes figures qui ont œuvré à la formation de ces différents courants, comme Lao Tzu et Confucius, et d'autres encore moins connues, comme par exemple Mencius, qui pose la bonté fondamentale de l'homme, et Xunzi, qui lui insiste sur l'importance de l'ordre et du rythme mérite pour le confucianisme. La présentation de ces courants procède par interrogation. Qu'est-ce que l'action fidèle à la voix? Qu'est-ce qu'un homme authentique? Que peut bien être le taoïsme? Et par thème, de la pensée à la doctrine d'État, la mort et la métamorphose, la méditation, le vide ou encore l'ordre monastique. Alors ce livre vous sera utile si vous souhaitez dépasser les idées reçues sur la pensée chinoise et savoir une fois pour toutes ce à quoi tous ces termes renvoient, hein, la méditation, le vide, l'ordre monastique. Voilà, donc c'est l'espace de la pensée chinoise, c'est par Alexis Lavis et on trouve ça chez Oxus.
Tout homme a un cœur qui réagit à l'intolérable, c'est Mencius qui le dit. Oui, mais il faut un cœur d'airain pour faire un cœur d'or, de la violence à la gentillesse, du surhomme au super flic et d'Arendt au rhizome. C'était le chemin du jour. Une émission que vous pouvez retrouver sur internet où vous attend le téléchargement des émissions de la semaine et l'écoute en ligne des émissions du mois ainsi qu'une bibliographie Arendt, Jafflin, Michael Fossel. C'est le programme du jour. Suite et fin pour nous demain de cette semaine sur Hannah Arendt. On parlera des origines du totalitarisme, on finira par l'origine donc en compagnie de Pierre Bourrette. Il est 10h59 sur France Culture et dans un instant, question d'époque.